Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.FM or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Paris, nos micros, l'artiste sans frontières, originaire du Bénin, donnera un concert inédit à l'Alliance française de Toronto le samedi 23 mars. Participez, gagnez des billets tout au long de l'émission. Elle sera des nôtres dès 11h30 aujourd'hui. Karine au micro à l'Alliance française de Toronto le 23 mars prochain, ne pas rater.
Francophonie.
Avec vous, Dominique Bayer, bonjour.
Dis, madame, s'il te plaît, tu peux me dessiner un francophone?
Cette question, le petit prince aurait bien pu la poser à Antoine de Saint-Exupéry. Et moi, elle me vient constamment à l'esprit quand je réalise cette émission. À force de chercher de par le monde les visages multiples des drôles d'oiseaux et autres spécimens rares qui composent la francophone, F-A-U-L-E, tout doucement, le miroir de la radio me renvoie un autre portrait. Sorti de la nuit des ondes, se dessinent les traits d'un francophone bien vivant, curieux, souvent très actif et toujours à l'écoute du monde. Ce francophone, c'est vous, cher auditeur. Vous qui êtes fidèle à notre rendez-vous hebdomadaire depuis plusieurs années maintenant. Vous qui prenez votre plus belle plume électronique pour demander un conseil, une information, tout simplement pour dire bonjour et parfois pour dire merci. Vous êtes aujourd'hui le sujet de l'émission. Bienvenue.
Saviez-vous que 33 millions de locuteurs de français dans les Amériques font vivre et rayonner la langue française autour d'eux ? Dans le cadre du mois de la francophonie, CUTFM et ses partenaires vous invitent à participer à une programmation spéciale. Jusqu'au 31 mars, célébrons ensemble la francophonie, sa culture, sa diversité et son inclusivité partout au pays et dans le monde. Et on en profitera pour célébrer le 50e anniversaire de la loi sur les langues officielles au Canada. Mars 2019, Potpourri Show ouvre l'antenne à des jeunes, des têtes d'affiche, des artistes engagés, des femmes et les résistants francophones. Mais qui sont-ils au juste? Selon vous, quels sont les grands enjeux de l'heure de la francophonie ontarienne, canadienne et du monde? Jusqu'au 31 mars, CUTFM, RFI et ses radios partenaires vous invitent à voyager à travers la planète francophone grâce à ces radios partenaires. Mars 2019, le mois de la francophonie en partenariat avec des partenaires collaborateurs à travers les Amériques, au Canada et les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Plus de 44 500 membres, plus de 400 partenaires et collaborateurs à travers les Amériques et plus de 29 000 membres sur les réseaux sociaux. Mois de mars, mois de la francophonie. Soyez-y. Allez sur notre site immédiatement. Visitez potpourri@cut.fm ou encore potpourrishow.com. Bon mois de la francophonie.
Francophonie.
Avec vous, Dominique Bayer, bonjour. Nous allons cette semaine à New York à la rencontre d'une communauté francophone en plein essor, celle des Africains de l'Ouest. AM Stereo 930,
Portugal.
Hola, ¿cómo
j'ai
está?
Des amis au Sénégal.
Du côté de Loumoy.
J'ai des amis dans les villes.
Allez les gars, à bord.
J'ai des amis dans les îles.
Anti-goût de miel, anti-goût de fiel.
J'ai des amis proches ou lointains. J'ai des amis dans tous les coins.
Hello.
Bonjour.
Tant que la terre sera ronde, j'irai au
ici.
Tour du monde.
Là-bas.
Voir d'autres êtres humains.
Ailleurs.
Ni plus ni moins.
RFI.
RFI.
On en fait tout un monde.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Et oui, bonjour mesdames et messieurs, que vous soyez à travers la planète, on vous souhaite le bonjour, un bonjour chaleureux en direct de Heart House Studio, l'Université de Toronto. La radio qui vous mène jusqu'au bout du monde. Et nous disons un bonjour spécial à tous nos amis et peut-être à notre invité, Marc Albert Cormier, qui nous écoute sur Internet à Paris. Il sera des nôtres depuis Paris aujourd'hui. De Alger, nous avons aussi quelques auditeurs et surtout des femmes journalistes, et oui, engagées dans les médias. On sait que c'est pas facile. Bien le bonjour à vous au Togo, Bénin. Bien le bonjour, docteur Eddie Bouraoui, professeur émérite à l'université York, qui sera dans la cour des grands canadiens cette semaine. On s'est parlé hier soir. Bonjour, professeur Bouraoui. Félicitations encore. On lira votre message avant la fin de l'émission, c'est promis. Port-au-Prince, beaucoup d'Haïtiens nous écoutent chaque dimanche et merci pour vos messages. Des auditeurs de la région du Sénégal, de l'île Maurice, de la ville du Québec. Et on vous salue. L'ingénieur du son aujourd'hui, DJ Devera, accompagné de Sloan Ballant. Production, animation, votre serviteur Eric Adair sur www.cut.fm. Et pour nous joindre tout au long de l'émission, popourri@cut.fm. Ou encore le 416-946-7000, n'appelez pas tout de suite, le standardiste est très occupé en ce moment. Et oui, vous pouvez retrouver toutes nos émissions et tous les détails du mois de la francophonie, les détails de notre programmation et les activités de nos partenaires d'ici et d'ailleurs sur www.popourrichaud.com. Et merci encore une fois à tous nos partenaires et leurs contributions. Leur gratuité, et oui, il faut le dire. Mois de mars 2019, mois de la francophonie, et le 20 mars, à ne pas oublier, c'est la journée internationale de la francophonie. On en profite cette année pour célébrer les 50 ans de la loi sur les langues officielles du Canada. Et pour souligner le mois de la francophonie, jusqu'au 31 mars, nous vous donnons rendez-vous à une programmation spéciale permettant à nos auditeurs, auditrices, de faire un tour du monde de la francophonie. Et oui, on n'en parle pas assez de ce qui se passe ailleurs, tout en respectant les médias qui parlent de la francophonie d'ici, et il faut le faire. Mais notre mandat, c'est vraiment d'avoir un dialogue intercontinental avec tous les francophones du monde. Pourquoi on parle encore le français au Vietnam, au Pakistan, en Inde? Et oui, dans toutes ces régions qui ne sont pas nécessairement francophones, il y a des francophones mordus de la langue française, de la francophonie. Pourquoi sont-ils si engagés et si entêtés à vivre dans la francophonie ou à être francophone? Mais sont-ils reconnus comme des francophones? Et oui, cette année, le thème du mois de la francophone, c'est en français, s'il vous plaît. Et oui. Et ça tombe bien avec ce qui se passe en Ontario. Et pendant ce temps, malheureusement, pas une seule activité, je dis bien pas une seule activité en français à l'Université de Toronto, au département d'études françaises. C'est vraiment dommage. Je réponds à des questions que j'ai reçues de la part des étudiants francophones de l'Université de Toronto. À mon avis, à ma connaissance, il n'y a pas un seul événement, une seule activité organisée sur le campus de l'Université de Toronto. J'ai honte. Et si jamais il y a quelqu'un qui peut me contredire, qu'il m'appelle ou qu'elle m'appelle immédiatement. J'aurais aimé parler à cette personne pour clarifier la chose. Et le menu en ce dimanche 10 mars, petit détour sur les célébrations de la journée internationale des droits des femmes 2019. Et oui, on ne dit pas, et il ne faut jamais dire la journée de la femme, c'est la journée des femmes. Donc cette année, la journée des droits des femmes 2019. Et cette année, le thème, selon l'ONU, penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. Et après les hashtags MeToo, hashtag balance ton porc, contre les violences sexuelles, partout les femmes passent à l'offensive. Et selon plusieurs sondages et études, des violences sexistes et sexuelles massives dans les médias et sur les campus de certaines universités. Les femmes sont-elles la clé de l'émergence? Nous ferons le tour d'horizon en 30 minutes avec nos invités à Toronto. Femme engagée, passionnée, et oui, Faiza Abdelawi, qui est la présidente du mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, le MOFIF. Katia Roux, chargée de plaidoyer pour le programme Liberté pour Amnesty International France. Patricia Jomsou, présidente déléguée de l'association Women of Africa, qui met en place des programmes de développement en faveur des femmes, des jeunes et des enfants. Kumba Sow, Team Leader de Résilience pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel au sein de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, et Justine Koulidiadi, KLM, coordonnatrice régionale de la plateforme des femmes du G5 Sahel. Et dans la deuxième heure, un avant-goût du prochain concert de l'artiste béninoise Karine au micro. Artiste sans frontières, elle donnera un concert inédit à l'Alliance française de Toronto le samedi 23 mars. Je vous invite à participer en direct et gagner des billets, mais répondez à la question du jour, eh oui, de la semaine, parce que nous avons déjà eu plusieurs gagnants ou gagnantes. Qu'est-ce que la bibliothérapie? Qu'est-ce que la bibliothérapie? Et répondez immédiatement à popourri@cut.fm et qui sait, vous aurez la chance d'aller voir le concert de Karine au micro. D'ailleurs, pourquoi Karine au micro? Qui sera à nos micros aujourd'hui, et elle sera en concert le 23 mars prochain à 21h à l'Alliance française de Toronto. Allez sur le site pour tout découvrir. Et nous remercions bien sûr notre amie partenaire Nadine McCulty qui anime une émission Karabouni ici à l'antenne des 15h chaque dimanche sur CUTFM. Thank you, Nadine. Et nos prévisions, rapidement, les rendez-vous de nos partenaires. Jusqu'au 2 septembre, le Musée royal de l'Ontario fait revivre 6 siècles d'histoire indienne. Le Musée royal de l'Ontario constitue le dernier arrêt et le seul au Canada de la tournée nord-américaine de l'exposition Trésor d'un royaume du désert. C'est à voir absolument, c'est fabuleux. Et puis, je vous rappelle, jusqu'au 17 mars, allez rencontrer les chercheurs scientifiques et conservateurs qui font vibrer le Musée royal de l'Ontario pendant la semaine de relâche. Et oui, et je vous rappelle qu'il y a des visites en français. Exigez vos visites en français. Et je remercie beaucoup les organisateurs et les patrons du Musée royal de l'Ontario qui nous écoutent régulièrement et qui font tout ce qu'ils peuvent en leur possible. Bonjour, monsieur, notre jeune trésor qui est arrivé, c'est bien sûr Sloane Ballant. Ça va? Vous n'êtes pas pris dans la circulation avec le défilé St. Patrick's Day? Le défilé de la St. Patrick? Eh oui, nous sommes à Toronto, mesdames et messieurs, si vous nous écoutez à l'étranger. C'est le grand défilé des Irlandais ici. Ça dure depuis 1860, je pense. Hein? Alors, et puis je vous rappelle, le 17 mars, dimanche prochain, nous allons avoir une émission très, très, très spéciale. Un menu taillé sur mesure, madame, monsieur, pour célébrer la francophonie à l'approche de la Journée internationale de la francophonie. On passera en revue les nouveaux défis des francophones de l'Ontario, du Canada et du monde, avec des invités de marque sur les 5 continents. Nous aurons entre autres plusieurs invités, chercheurs, linguistes, et nous aurons aussi professeur Aurélie Lacassagne, qui est écrivaine, auteur de l'Université de Sudbury, Obed Lamy, Haïti, Marc-Albert Cormier à Toronto, qui est actuellement à Paris. Nous recevrons aussi le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, monsieur Carole Jolin, et le Centre francophone des Amériques, TV5 Monde, et Cécile Lavelot, Emmanuel Bastide, Delphine De Dianou, Pierre Desorgues, Linda Giguère et plusieurs autres invités seront des nôtres à ne pas rater la semaine prochaine. Si cela vous tente, vous voulez nous donner un coup de pouce, envoyez-nous un message immédiatement ou encore téléphonez le 416-946-7000. Je répète, Sloane est ici, répond à votre appel. 416-946-7000. Dites bonjour à Sloane Ballan, notre ami qui vous attend vos appels. Et puis le 19 mars, le CREFO à l'Université de Toronto a le plaisir de vous inviter à sa prochaine conférence. Le thème, amélioration des compétences linguistiques dans l'enseignement des langues à l'université. Comment passer en revue les pratiques et les défis de la rétroaction par les locuteurs natifs? Cette conférence sera présentée par Dr Michel Kremer de l'Université Drush aux Pays-Bas. Et la conférence aura lieu le mardi 19 mars de 17h à 18h30 au CREFO, l'Université de Toronto, 252 rue Bloor. Et si cela vous intéresse, allez sur notre site. Vous aurez tous les renseignements www.popourichaud.com. Le 21 mars, participez Get into the Spirit. Et oui, avec Ciné Franco, c'est dans le cadre de la semaine francophone. Ciné Franco vous donne rendez-vous au Carlton Cinema. C'est au métro Collège, pas très loin au centre-ville de Toronto, Collège et Yonge. Une projection gratuite d'un film magnifique, La Chute de Sparte, adaptation du roman de Bise, un film qui devrait plaire aux adolescents, adolescentes. C'est un drame coécrit, réalisé par Tristan Dubois, son premier long métrage pour le cinéma, La Chute de Sparte, qui ressemble à son auteur, drôle, cultivé, aux opinions fortes, aux désirs vifs et dont la passion pour l'histoire confère au récit. 21 mars, participez, Get into the Spirit, dans le cadre de la semaine francophone avec Ciné Franco qui vous donne rendez-vous au Carlton Cinema. Et je vous rappelle que vous êtes invités, tout le monde, toute la famille, tout le réseau, les voisins, les voisines, réservez vos billets en ligne parce que c'est gratuit. Merci à Marceline qui nous écoute peut-être, à la fondatrice de Ciné Franco. Allez sur cinéfranco.com et réservez vos billets immédiatement pour les 21 mars. Et puis du 22 au 30 mars, dans le cadre de la série de spectacles de bouche à oreille, l'auteur-compositeur français Paul Mesley sera en tournée dans le sud de l'Ontario, Kingston, Niagara Falls, Toronto, Hamilton. Nous savons qu'il y a des francophones qui nous écoutent dans la région de Hamilton. Donc du 22 au 30 mars, allez vite sur le site www.debouche-à-oreille.com. De bouche à oreille, production, DBAO, production.ca pour tout savoir. Et nous aurons le fondateur de bouche à oreille à l'émission très prochainement. Merci, Denis. Le 23 mars, concert avec Karine au micro à l'Alliance française de Toronto en partenariat avec Batuki Music Society et l'Alliance française. Et nous sommes très heureux et fiers de participer à cet événement. Et Karine au micro sera des nôtres vers 12h30. Karine, tu nous écoutes en ce moment à Montréal avec la Familia. Bien le bonjour à tous les amis de Montréal. Et le 24 mars, éducation, environnement, enseigner avec la nature, l'école à ciel ouvert. Comme vous le savez, des centaines, pour ne pas dire des milliers de jeunes descendent dans les rues de plusieurs villes en Europe et peut-être bientôt au Canada et aux États-Unis pour manifester et préserver notre environnement. Le réchauffement climatique, c'est important. Et il y a des professeurs, des enseignants avant-gardistes qui vont de l'avant et qui enseignent, eh oui, leur classe à des élèves en pleine nature. Et très, très, très intéressant, nous allons avoir des experts en menu environnemental et éducatif à l'émission le 24 mars, c'est un dimanche bien sûr, ici. Et le 28 mars, Franco Open Mic organise une soirée spéciale pour la semaine de la francophonie. C'est le 28 mars, une belle occasion réservée à tous les talents francophones et francophiles de la région de Toronto. Soyez au rendez-vous, soyez au premier rang, allez pratiquer votre talent, et eh oui, pourquoi pas, en public. Et c'est au Rivoli 332 Rue Queen West. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter francoopenmic@gmail.com ou aller sur la page Facebook francoopenmic.toronto. C'est le 28 mars. Et le 30 mars, l'humoriste québécoise Rosalie Vaillancourt présentera son spectacle de la tournée Enfant Roi dans le cadre des festivités. Et ce spectacle de clôture se tiendra au théâtre Spadina de l'Alliance française de Toronto. C'est le samedi 30 mars à 20h, 24 Spadina Road. Allez sur le site de francophonieenfête.com pour avoir tous les renseignements. Merci, chers amis. Vous êtes nombreux à être ici depuis le début de ce mois. Je suis très touché par l'engouement des auditeurs, des invités et des professeurs qui ne nous connaissaient même pas il y a quelques semaines et qui, voilà, veulent apporter leur eau au moulin. Et je suis vraiment très, très reconnaissant. Enfin, toute l'équipe en est reconnaissante. Chers amis de la radio, depuis quelque temps, et selon certains articles dans les médias, les rumeurs alimentaient les débats sur la liberté d'expression sur les campus universitaires, y compris sur le campus de Toronto. Nous savons aussi que les propos de certains membres du gouvernement de l'Ontario ont ouvert la voie aux groupes qui tiennent des propos haineux sur le campus de plusieurs universités en Ontario. Résultat, le gouvernement de l'Ontario va bientôt présenter un projet de loi qui s'intitule Student Choice Initiative. Suivez le lien suivant. Allez sur le site de la radio, www.cut.fm, et vous aurez tous les détails. J'invente absolument rien. L'heure est grave. Si cette nouvelle politique est adoptée au Parlement de l'Ontario, cela donnerait le choix aux étudiants de l'Université de Toronto de transférer leur cotisation de CUT à un autre service de leur choix et rendrait ainsi CUT-FM comme un service non essentiel. En d'autres termes, le but de cette nouvelle politique est d'éliminer tout simplement la liberté d'expression des citoyens, y compris la seule, l'unique émission en langue française en ondes. Le gouvernement de Doug Ford précise que le financement des universités pourrait diminuer si cette nouvelle exigence n'est pas satisfaite. Cet acte contribue au démantèlement en cours de la cohésion sociale, culturelle, linguistique de notre province. Pourtant, le mandat et la mission particulière de CUT sont très bien stipulés dans le renouvellement de la licence de CUT par le CRTC, licence renouvelée jusqu'à 2022. Cette nouvelle politique mettra, madame, monsieur, en péril l'avenir de la radio avec une perte de revenus de 50% de notre budget opérationnel, plusieurs postes, plusieurs émissions, pour ne pas dire peut-être toutes les émissions, seront supprimées et nous aurons des enregistrements. Eh oui, c'est-à-dire nous ne serons plus à la radio, parce que la radio ne pourra plus avoir des techniciens ou encore des gestionnaires pour s'assurer au bon développement de la radio. Donc, l'heure est grave. On risque, madame, monsieur, de disparaître à jamais dans le paysage audiovisuel du pays. Pensez-y. Alors, parmi les mesures, les actions proposées par la direction de CUT, des milliers d'auditeurs, des artistes, Plus de 400 bénévoles engagés sont en droit d'exiger une réponse précise de la part des députés, des membres élus de ce gouvernement à l'égard de leur position sur la radio communautaire de l'Université de Toronto. L'un des biens publics les plus importants de la grande région de Toronto et du Canada. Pensez à tous ces événements qu'on a organisés attirant des foules à chaque année. Donc, Madame, Monsieur, je vous invite de tout cœur à participer à la campagne et envoyer des pétitions auprès de vos députés, auprès de vos élus. Portez-vous à la défense de la seule émission en français, plus de 32 ans à l'antenne, et de la diversité des programmes de CUT, et parlez de l'urgence de cette question avec vos amis, les membres de votre famille, sur votre page Facebook, parce que souvent, vous les auditeurs qui m'écoutez, nous sommes un peu trop en état léthargique. Ah oui, on aime bien ce que vous faites à la radio. Ah oui, on adore la musique. Ah oui, on adore tel et tel propos de vous inviter. Mais quand arrive le temps de passer à l'action, vous êtes d'accord avec moi, mon cher Sloan? Beaucoup d'appels, très peu d'élus. Il est temps de démontrer notre force, madame, monsieur. Et j'y crois, si on arrive à avoir une concertation pour démontrer la force de la communauté torontoise. Veuillez donc nous envoyer un message ou encore aller sur le site de CUTFM pour compléter l'ébauche de la lettre que vous pourrez envoyer à vos députés, aux ministres, et je dis bien de la province de l'Ontario. Ce n'est pas nécessairement des ministres ou des députés de la région de Toronto ou du Grand Toronto, mais partout en Ontario, il faut avoir une mobilisation provinciale. Envoyez-nous un message immédiatement, popourri@cut.fm, ou encore téléphonez à Sloan, qui est ici, qui attend votre appel, et on prendra vos coordonnées, on vous enverra l'ébauche de la lettre. 416-946-7000. Eh oui, alors, et aussi, on a toutes les informations de vos députés, de toutes les circonscriptions en Ontario. On a leur nom, madame, monsieur, on a leur couleur, on sait qui ils sont, et on va vous faciliter la tâche, ne vous en faites pas. Eh oui, donc, madame, monsieur, je laisse maintenant la parole à notre cher ami qui nous attend depuis Paris, c'est-à-dire Marc-Albert Cormier. Merci. Je compte sur vous.
Chers amis, chers compatriotes, je souhaite pour cette chronique vous saluer depuis Paris, plus précisément le square Jean 23 derrière Notre-Dame, sur l'île de la Cité. Le sujet de cette chronique, pourquoi est-ce que je me rends à Paris, vu que je ne siège pas à l'Assemblée des Français de l'étranger? Je ne reviendrai pas ici sur le scrutin indirect qui élit parmi les conseillers consulaires ceux qui iront à l'Assemblée des Français de l'étranger. Vous pourrez vous renseigner à partir de mon site web. Mais aller à Paris une fois par an, pendant le congé de mars, reste un grand moment pour des centaines de conseillers du monde entier. Nous pouvons nous retrouver à l'Assemblée Générale de l'Union des Français de l'étranger, par exemple, ou lors d'événements organisés par des sénateurs ou tout autre élu. Ainsi, j'ai pu nouer des liens forts avec des conseillers des Pays-Bas, d'Égypte, d'Uruguay, du Maroc, des Comores ou de Shanghai. C'est lors de ces rencontres que nous comparons nos communautés respectives. Certains ont survécu à des coups d'État, d'autres à des révolutions où ils ont pratiquement tout perdu. D'autres vivent dans des pays où il y a le droit et le droit religieux avec lequel il faut composer. D'autres sont élus dans des territoires en guerre, et d'autres encore boivent du yerba maté au lieu d'un bol de café le matin. Ces élus sont toutes et tous à la fois très français, mais un peu teintés, influencés, façonnés par leur pays d'adoption. Oui, un tel aime Trump, un collègue s'exprime aussi bien en allemand, et un autre peut vous trouver un très bon agent immobilier à Prague. Je fais donc partie, avec mes 442 collègues à travers le monde, partie d'un réseau unique. C'est une richesse exceptionnelle. Si un compatriote installé à Toronto quitte demain pour Lomé, je sais vers qui je peux l'orienter, et réciproquement. Au-delà des collègues, il y a bien entendu les rendez-vous avec les sénateurs qui sont issus de nos rangs. C'est le moment idéal pour attirer le regard de nos élus sur des problématiques spécifiques. En année d'élection, sachant que les Français de l'étranger sont un important réservoir de vote, nous sommes souvent sollicités par les candidats. Ainsi, j'ai pu rencontrer Nicolas Sarkozy, Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé et bien d'autres encore, sans pour autant tomber sous leur charme, quand ils en ont. Il faut savoir maintenir son indépendance, car au-delà de nos opinions personnelles, nous représentons des compatriotes avec des idées très diverses. Si lors du déplacement on enchaîne les rendez-vous, c'est quand même Paris, on y retrouve amis, famille et surtout d'anciens Français de l'étranger qui ont décidé de retourner en métropole. Ici Marc-Albert Cormier, conseiller consulaire de l'Ontario et du Manitoba, en collaboration avec le Potpourri Show, CIOT 89,5 FM, depuis la place Jean 23, derrière Notre-Dame, ce lit de la cité, à Paris.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris.
Et oui, mon cher ami Marc, bien bon le séjour hein, à Paris. Et nous, on est en train de festoyer parce que nous sommes dans le grand brunch de la francophonie. Allez, venez, chers enfants de la patrie, fêtez le mois de la francophonie avec nous.
CIUT 89.5, Toronto.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo. Et oui, madame, monsieur, là, vous écoutez en ce moment Karine au micro, une artiste aux multiples talents. Elle s'exprime aussi bien par la danse que par sa voix mielleuse. Elle sera à l'antenne dès 12h30 aujourd'hui. Et ne pas rater son concert inédit à l'Alliance française le samedi 23 mars prochain à 21h. Une paire de billets vous attend. Karine au micro, à ne pas rater aujourd'hui dans notre show spécial Mois de la francophonie dès 12h30.
Bonjour à toutes et à tous. Savez-vous ce que signifient les mots Québec, Canada ou Petit Cao? Michel Noël est aujourd'hui l'invité de Francophonie. L'écrivain québécois raconte l'histoire des langues amérindiennes, comment celles-ci ont conquis ou reconquis leur territoire dans la langue québécoise. Avec vous au micro, Marion Urban.
Un phénomène recrudescent, disjoncté. À vos yeux, cela vaut combien de disjonctés? Ténaillante nervosité, faut disjoncter. Une déception vue
par l'ancien de disjoncté.
Et oui, le roi du slam qui était au micro la semaine dernière sera en tournée en Ontario et à Toronto, Hamilton. À ne pas rater le 5 avril prochain, le roi du slam, j'ai nommé ici bien sûr Yao. L'artiste Yao, récipiendaire prix coup de foudre du réseau Ontario en 2018. Le roi du slam, ambassadeur de l'Ontario, sommet de la francophonie à Madagascar il y a 2 ans. Il sera en tournée en Ontario et le 5 avril, à ne pas rater, à l'Alliance française, l'artiste slammer Yao. Et oui, il y a eu beaucoup de manifestations, forums, débats, émissions spéciales. Et nous avons eu vraiment coup de cœur pour ces femmes qui travaillent, qui militent dans les médias. Et selon plusieurs sondages, on voit qu'elles sont harcelées. Et oui, sexisme, racisme, toutes sortes de problèmes. Et ce sont des études qui en font état. Emploi des jeunes, entrepreneuriat, créativité, urbanisation, relations hommes-femmes, comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde. Chaque jour, Radio France Internationale, les auditeurs, les citoyens, usagers, usagères et consommateurs, consommatrices s'expriment et dialoguent avec des invités acteurs de la société civile. Et chaque vendredi, une émission spéciale qui s'intitule « 7 milliards de voisins » est consacré à l'éducation. Régulièrement, l'émission donne la parole à la jeunesse sur le continent africain avec des débats en public et des conseils pratiques pour réaliser des projets professionnels. 7 milliards de voisins, une émission présentée par Emmanuel Bastide sur RFI. Et aujourd'hui, l'émission 7 milliards de voisins fait place aux femmes engagées dans le monde. À vous, RFI Paris.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines, vendredi 8 mars, oui, comment l'oublier aujourd'hui, journée internationale des droits des femmes. Depuis le début de la journée, RFI se mobilise et il y a tant à faire. Les femmes produisent de 60 à 80% des aliments dans la plupart des pays en développement. Elles sont responsables de la moitié de la production alimentaire mondiale. Elles sont au cœur de l'agriculture. Elles créent de petites entreprises, souvent, trop souvent informelles, pour transformer les matières premières sur le continent africain. Et surtout, elles détiennent la solution de la croissance démographique, à condition que les femmes soient libres, libres de leur mouvement, libres d'organiser leur vie, de leur famille aussi, comme bon leur semble. Une femme qui travaille, réinvestit 90% de ses revenus dans l'éducation, dans l'alimentation et la santé. Alors comment mieux prendre en compte ce rôle indispensable des femmes dans le développement économique et durable et social? Les femmes sont-elles la clé de l'émergence pour sortir de la pauvreté? Nous allons en discuter avec des femmes actives dans le développement. Avec nous dans le studio, Katia Roux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de plaidoyer pour le programme Liberté pour Amnesty International France. Et vous allez nous expliquer à quel point aujourd'hui nous vivons dans une époque où les femmes sont en première ligne des victimes des répressions, aussi en première ligne des résistances. Patricia Jomseux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente déléguée de l'association Women of Africa qui met en place des programmes de développement en faveur des femmes, des jeunes et des enfants. Et vous jouez un rôle modèle. Vous nous expliquerez aussi pourquoi les femmes ont encore et plus que jamais besoin de modèles aujourd'hui pour s'accomplir et pour inventer leur destin. On sera également en ligne avec Kumbasso, qui est spécialiste de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel au sein de l'agriculture, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, et également Justine Koulidiati, QLM, qui est coordinatrice régionale de la plateforme des femmes du G5 Sahel. Et bien sûr, les voisines, vous avez la parole dès maintenant pour nous raconter comment autour de vous des femmes participent au développement de votre pays. Notre numéro WhatsApp, c'est le 33 1 84 22 71 71.
L'enjeu, pour que les femmes soient présentes et qu'elles soient nombreuses, c'est parce qu'en définitive, nous apportons autre chose.
Tout part d'un rêve.
Il suffit d'écouter les femmes.
7 milliards de voisins, on est toujours à l'écoute.
Si Simone Veil le disait si bien, il suffit d'écouter les femmes. Eh bien, tout de suite, c'est ce que nous faisons. Message d'une voisine à Abidjan. Conseil aux femmes trop silencieuses qui ont deux boulots.
Bonjour les voisins, bonjour les voisines. Je suis Dumondé Sita, j'interviens depuis Abidjan. Au sujet de l'entrepreneuriat, j'aimerais dire deux petites choses. Ça demande beaucoup de moyens, mais on peut commencer à entreprendre en travaillant à domicile. Il faut juste une bonne organisation. Mais avec beaucoup de discipline, on y arrive. Il faut juste avoir une passion. Trouver un secteur d'activité qui vous passionne. Ajouter à cela une vision qui apporte un plus à ce qui se fait déjà. Moi, ce qui me passionne, c'est l'art du crochet. J'ai donc travaillé à transformer la technique du crochet en une technique que je mets aujourd'hui au service de la création artistique. C'est de l'art. Je communique à travers les réseaux sociaux. J'exploite également les opportunités qui s'offrent à moi, comme de parler sur RFI aujourd'hui, l'entrepreneuriat, ça aide à faire entendre. Il faut être à l'écoute et puis il faut y croire. Il faut croire en son projet. Excellente journée à tout le monde.
Patricia Jones, il suffit d'écouter les femmes, il suffit d'y croire, il suffit d'eux, mais dans la réalité, c'est pas si simple.
Ce n'est malheureusement pas si simple. Il y a énormément de freins aujourd'hui auxquels les femmes doivent faire face. Concernant l'entrepreneuriat, aujourd'hui, on le voit, les femmes sont le moteur, je dirais, de l'économie en Afrique. Malheureusement, elles doivent faire face à deux freins essentiels. La pauvreté, d'une part, et d'autre part, l'insécurité sociale. Donc, les besoins des femmes aujourd'hui sont de plus en plus nombreux. Elles nous interpellent dans différents domaines. Elles ont besoin de formation, elles ont besoin de financement. La seule volonté et la seule capacité des femmes, effectivement, à se mobiliser ne suffit pas. Elles doivent avoir un accompagnement qui doit être, je dirais, structuré, qui doit également être intelligent, parce que nous devons faire face aujourd'hui à un certain nombre de modèles nouveaux, d'adaptabilité à la nouvelle société, à la nouvelle donne. Aussi bien les femmes rurales que les femmes qui vivent dans les zones périurbaines font preuve d'un dynamisme absolument incroyable, et nous devons donc apprendre finalement d'elles pour pouvoir construire avec elles des structures de vie autogérées et autonomes.
Ouais. Patricia Jomse parlait de cette nouvelle société. Katia Roux, on a le sentiment qu'aujourd'hui les femmes veulent davantage être entendues, prendre la parole, et que la société se réorganise en fonction de leurs aspirations. C'est pas sans prendre des risques politiques, économiques.
Absolument. Ce qu'on constate, et on a pu le constater tout dernièrement sur l'année écoulée par exemple, c'est que les femmes aujourd'hui, partout dans le monde, sont en première ligne du combat pour les droits humains. Et elles doivent le faire effectivement, comme il a été dit, parce que dans tous les aspects de leur vie, finalement, elles sont victimes de discrimination ou d'inégalité. Les droits des femmes ont systématiquement été placés un échelon en dessous des autres droits ou des libertés fondamentales, et finalement sont très peu protégées concrètement par les gouvernements. On a aussi vu des discours, la montée de discours misogynes et clivants. On peut penser aux États-Unis avec Donald Trump, au Brésil avec Bolsonaro, qui réduisent aussi leur capacité d'action. Et enfin, il y a tout un tas de politiques et de lois qui sont passées justement pour, quelque part, victimiser les femmes et les empêcher de jouir de leur liberté. Et donc, effectivement, face à tout ça, les femmes n'ont pas d'autre choix que de réagir, de monter au créneau partout dans le monde, en Afrique, effectivement, comme on l'a vu, pour l'autonomisation économique, mais effectivement, partout dans le monde. Et ce faisant, elles prennent des risques. Elles prennent des risques parce que elles deviennent militantes de leur propre cause. Elles deviennent des femmes défenseurs des droits humains. Donc, c'est-à-dire qu'elles s'engagent pour la promotion et la défense des droits de manière pacifique. Et de ce fait, elles sont exposées à des risques, les mêmes risques que les hommes défenseurs des droits humains, mais des risques aussi spécifiques liés à leur genre et à leur identité de femme. On pourra peut-être y revenir avec exemples concrets, mais effectivement, elles s'exposent. Mais ça ne les, pour autant, ça ne les réduit pas au silence.
Et elles ont compris que personne n'allait parler à leur place, finalement. Absolument. Alors, on l'a dit, vous l'avez dit, Patricia Jones, les femmes, surtout sur le continent africain, sont au cœur du développement économique, oui, mais en même temps, beaucoup trop souvent reléguées à des entreprises informelles.
Absolument.
Et énormément, bien sûr, au cœur de l'agriculture. Mmh. Nous sommes en ligne avec Koumbasso de la FAO. Bonjour Koumbasso.
Bonjour.
Vous êtes en ligne de Rome. On associe souvent les femmes à une agriculture sans tracteur, une agriculture peu productive, l'inverse de ce que devrait être l'agriculture aujourd'hui, innovante, créative. C'est le cas au Sahel. Comment se positionne aujourd'hui la FAO pour que les femmes qui triment quand même tout au long des dures journées ensoleillées dans ces champs soient de nouveau estimées à leur juste valeur et comme cheville ouvrière d'une modernisation de l'agriculture aussi?
Alors, il faut savoir que pour la FAO, les femmes sont l'épine dorsale de l'économie rurale, hein, surtout dans les pays en développement.
Oui.
Elles représentent la moitié des agriculteurs dans le monde et sont depuis quelques décennies de plus en plus impliquées dans l'agriculture. Le nombre de foyers dirigés par une femme dans les zones rurales augmente, car les hommes ont tendance davantage à aller en ville, à migrer en Europe, etc. Et donc, ce sont ces femmes qui s'occupent en grande partie de la famille, de la communauté, et qui jouent donc ce rôle prédominant dans l'alimentation et la nutrition. Donc, elles constituent pour la FAO un maillon de la chaîne absolument essentiel entre le champ où l'on produit et l'assiette. En vue des objectifs de développement durable, surtout l'ODD2, qui vise à éliminer la faim et la malnutrition à l'horizon 2030, pour nous, les femmes sont piliers. Ce sont des agents incontournables de ce changement dans l'agriculture, la nutrition, mais également le développement rural en Afrique et particulièrement au Sahel, qui subit à la fois des chocs du changement climatique, des conflits où on ne peut bénéficier d'un bon retour que si l'on investit sur les femmes, leur donner un meilleur accès à l'information, à la formation, aux nouvelles technologies surtout, parce que c'est là où on voit vraiment qu'elles sont un peu en arrière. Et elles peuvent désormais infléchir, disons, des modes de production de consommation vivrière et une gestion durable.
Et quand vous dites, on le voit bien, les femmes sont un peu en arrière, c'est-à-dire mal informées, mal formées aussi pour transformer l'agriculture dans des pays qui font face à un tel stress démographique pour nourrir tout le monde dans les pays du Sahel, il va falloir que l'agriculture se transforme. Quelle est la place des femmes, par exemple, dans les organisations paysannes aujourd'hui, si on regarde le continent africain, Koumbasso?
Alors, disons qu'il y a deux choses. Les femmes, elles ont la connaissance. Elles sont gardiennes des ressources génétiques, par exemple, des semences. Ce sont les femmes rurales indigènes qui pensent à comment nourrir les générations futures, grâce à des recettes et des techniques anciennes. Cela est connu, reconnu. Il faut les organiser, il faut pouvoir extraire cette connaissance, l'améliorer s'il le faut, l'adapter et ensuite pouvoir la partager. Quand on regarde les organisations paysannes en général, on a vu qu'une femme est présidente de la plus grande association de producteurs en Afrique, SAFO, qui s'appelle Elisabeth Atangana. Donc, nous pouvons dire que les femmes ont vraiment accès à un niveau important dans la défense de leurs droits, les femmes agricoles, je parle, mais cela ne se transmet pas forcément à un niveau plus bas.
Oui.
Il y a beaucoup plus de choses à faire en termes de formation, en termes d'accès, leur donner accès à cette information dont je parle.
Mais c'est finalement, pardonnez-moi, Koumba, donc c'est finalement le rôle, je dirais, domestique de la femme qui s'étend vers les organisations et des organisations communautaires au sein des zones rurales. Je voudrais en parler, je voudrais insister là-dessus parce que nous avons l'occasion aussi aujourd'hui de pouvoir présenter, au-delà effectivement des théories, etc., de présenter des exemples concrets pour que les femmes qui nous écoutent sachent effectivement qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a des actions qui sont menées notamment par la FAO, mais aussi par Women of Africa et par d'autres organisations qui leur permettent effectivement d'impacter de manière positive leur milieu. Donc aujourd'hui, de manière concrète, les femmes rurales, les femmes périurbaines et les femmes aussi qui vivent dans les zones urbaines doivent comprendre et doivent pouvoir être effectivement informées de ce qui se fait, de ce qu'elles peuvent faire, du type d'information
et d'être dont elles ont besoin, dans des cercles de décision
et où elles peuvent aller le chercher
et dans des cercles d'organisation paysanne, parce qu'en réalité on voit surtout beaucoup d'hommes dans les cercles d'organisation paysanne, qui sont des cercles qui sont consultés par les politiques.
Absolument,
par exemple les femmes sont beaucoup moins consultées. Comment les femmes peuvent participer à la modernisation de l'agriculture alors qu'elles possèdent pas de terre, Koumbasso?
Alors, les soutenir pour avoir l'accès à la terre est effectivement clé. Il y a des gouvernements qui mettent en place des solutions, des articles de loi. Je pense au Sénégal, par exemple, avec l'acte 3 de la décentralisation, qui permet vraiment aux femmes d'avoir accès à la terre. Mais la terre seule ne suffit pas. Il faut des intrants, comme je disais, il faut des nouvelles technologies de l'information qui pour vraiment transformer les vies de plusieurs façons. Ça leur permet de contrôler disons, leur culture, suivi des marchés, etc.
Ouais. Il y a un vrai problème aussi, c'est l'accès à l'eau, Koumbasso. Hein. Quelle est l'action de la FAO pour un meilleur accès à l'eau? Puisqu'on sait que ce sont les femmes qui passent énormément de temps à aller chercher de l'eau dans les puits pour irriguer les cultures.
Absolument. Alors, pour l'accès à l'eau, la FAO a mis en place plusieurs types de systèmes pour assister les femmes. Mais particulièrement au Sahel, nous avons choisi un système qui s'appelle 1 million, une initiative 1 million de citernes pour le Sahel, qui s'inspire de l'expérience fin zéro du Brésil, qui est quand même arrivé à sortir 40 millions de personnes de la pauvreté. Alors, c'est des techniques très simples où on a une construction de citernes et un toit qui permet de récupérer de l'eau de pluie qui se conserve pendant 5 à 6 mois, qui permet à une famille de 5 à 6 personnes non seulement de consommer, mais également d'utiliser cette eau pour une petite production de légumes, de fruits, qu'on arrive à également vendre sur un marché pour conférer plus de revenus.
Pour rebondir sur la question de l'eau, je donnerai un exemple, si vous voulez bien.
Allez-y, Patricia Jomseu, allez-y.
Alors, Women of Africa, je voudrais le préciser et saluer nos équipes au Togo. Nous venons d'achever un projet de création de réseau d'eau potable avec l'appui d'Aqua Assistance, qui nous a permis donc d'apporter de l'eau, donc de mettre en place des systèmes d'accès à l'eau pour les femmes dans les zones rurales au Togo. On parle là de 5 villages et de plus de 20 000 personnes. Donc, la corvée de l'eau est terminée et les femmes sont intégrées au sein de ce dispositif en tant que manager des plateformes de gestion de l'eau. Elles sont fontainières, elles sont payées, elles créent donc de la richesse. Elles peuvent de cette manière-là devenir autonomes. Donc elles sont véritablement au centre de l'action locale dans les villages. Donc ça, c'est très important à souligner.
Koumbasso, on va laisser la parole à Justine Couli-Diati qui vient de nous rejoindre de la plateforme G5 Sahel. Merci d'avoir été en ligne avec nous pour nous exposer la vision de la FAO concernant les transformations de l'agriculture justement dans le Sahel et la place des femmes ô combien primordiale dans ces transformations. Justine Couli-Diati, KLM, bonjour à vous.
Bonjour.
La plateforme des femmes au sein de la coalition G5 Sahel, pourquoi mettre les femmes au sein de cette coalition G5 Sahel alors que tout le monde l'a constaté, la lutte contre le terrorisme ne se discute en règle générale que entre hommes ou presque?
Très bien, merci bien RFI de nous permettre de parler en ce jour historique du 8 mars. Je veux dire que effectivement, les gens se posent la question de savoir pourquoi on met les femmes dans un dispositif où apparemment ce sont des hommes. Mais le G5 Sahel, dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent, ce n'est pas seulement la force de feu. La force de feu, c'est pour repousser l'ennemi qui attaque. Mm. La force de feu, c'est pour protéger les personnes et les biens. Mais la résolution du problème de l'extrémisme violent et du radicalisme est sans doute un problème de résilience, un problème d'armes qui n'est pas à feu, c'est-à-dire de porter un appui aux populations afin qu'ils sortent de la pauvreté extrême, afin que leur frustration liée à la mauvaise gouvernance et à toutes aux autres frustrations puisse être résolue.
Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement que peuvent apporter les femmes quand on prend un pays comme le Burkina Faso où le conflit touche surtout des zones rurales où les femmes, on l'a dit, ont un rôle clé dans l'amélioration de l'agriculture, comment on peut les impliquer dans un processus de paix alors qu'elles n'ont pas la parole sur ces questions-là? Ou au pire, elles sont plutôt instrumentalisées, victimes ou instrumentalisées par des forces terroristes?
Très bien. En effet, nous sommes conscients, lorsqu'on mettait en place la plateforme des femmes du G5 Sahel, que le plus gros problème qui devait venir à l'intérieur des zones rurales, au regard de ce que je viens de dire précédemment. Je profite pour remercier Koumba pour son intervention, parce qu'effectivement, nous avons déjà tenu des rencontres. Nous avons fait des plaidoyers pour qu'on puisse effectivement relever le niveau d'éducation qui est primordial. Parce que sans, si les femmes n'arrivent pas à capter l'information, même quand nous mettons à leur disposition des ressources, telles que les technologies, le matériel avancé pour la transformation, si elles ne savent pas comment l'utiliser, si elles ne sont pas informées, si elles n'ont pas de carte d'identité, si elles n'ont pas d'acte de naissance, elles ne sont pas hypocrites.
Et oui, bien, nous remercions Emmanuelle Bastide, que je vais rencontrer prochainement à Paris, et elle est animatrice, productrice du magazine 7 milliards de voisins que vous pouvez syntoniser sur RFI ou que vous soyez à travers le monde. Merci à toutes ces invitées. Et je vous rappelle que dans la deuxième heure, nous aurons Faïza Abdellaoui, qui est une femme engagée, femme passionnée, femme entrepreneur qui ose se lancer dans la cour des grands. Elle est la présidente sortante du MOFIF. Elle sera des nôtres et on fera une tournée d'horizon, de la place à des femmes, les défis, les progrès peut-être à réaliser, surtout les femmes francophones, particulièrement les femmes immigrantes. Et oui, la journée internationale des femmes suscite encore bien des débats, bien que les femmes aient fait de nombreuses conquêtes, les discriminations et les violences qu'elles subissent sont encore de nos jours malheureusement très présentes dans les sociétés. La lutte pour les droits est encore en cours et les mouvements féministes ne s'essoufflent pas. Ceux-ci sont toutefois souvent stigmatisés de façon négative. Il peut parfois s'avérer mal vu de se dire féministe. La personne s'affirmant féministe sera perçue par certains comme moralisatrice, frustrée ou haïssant les hommes. Il s'agit pourtant là d'un grave préjugé. Être féministe, c'est de croire en l'égalité fondamentale entre les sexes et en l'importance de celle-ci. Le féminisme, c'est un mouvement qui a pour objectif l'égalité entre les hommes et les femmes par l'émancipation des femmes et l'extension de leurs droits. Les féministes, femmes et hommes, sont donc les piliers sur lesquels repose la construction d'un monde égalitaire où femmes et hommes seraient libres de faire ou d'être ce qu'ils veulent. Afin de continuer sur le chemin de la croissance sociétaire et de l'égalité, il devient donc primordial de se déclarer féministe, de rester fidèle à ce que cela implique et de se soulever lorsque nécessaire. Voilà, le message est passé. Et puis je vous rappelle rapidement, mes chers amis, la question du jour. Qu'est-ce que la bibliothérapie ? Qu'est-ce que la bibliothérapie ? Répondez-nous immédiatement, 86 9 46 7000, ou encore si vous voulez nous donner un coup de pouce pour envoyer des lettres, des pétitions à nos élus, les députés de l'Ontario, afin de sauver ce trésor, la radio CUT-FM, qui est en péril, eh bien, envoyez-nous un message à potpourri@cut.fm ou encore envoyez-nous un message à 86 946 7000 pour recevoir une copie de l'ébauche de la lettre. Et mon cher Sloan, c'est le mois de la francophonie. Je vais jouer avec les mots, avec tous mes invités, à ne pas rater. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Eh oui, eh oui. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ? Eh oui, répétez après moi. On revient dans un instant.
Pour moi, quand tu veux.
Tout le monde écoute RFI. Tout le monde écoute RFI.
RFI. RFI.
RFI, la radio du monde.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk, soul, and everything in between on Higher Ground with Jason Palma. Thursday nights at 8.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. CIUT 89.5, Toronto.
Michael Ponge.
Et elle a une 47 mois de prison ferme, quasiment 4 ans pour Paul Manafort, l'ex-directeur de campagne de Donald Trump. On est loin des 19 et 24 ans requis par les procureurs. Paul Manafort est condamné pour la dissimulation au fisc de plus de 55 millions de dollars sur une trentaine de comptes à l'étranger. L'affaire avait été débusquée par Robert Mueller, le procureur spécial qui enquête sur les ingérences russes dans la campagne présidentielle de 2016 aux États-Unis. Le téléphone et Internet coupés, le métro à l'arrêt, Caracas et une partie du Venezuela sont plongées depuis hier soir dans le noir. Panne géante d'électricité attribuée par le gouvernement à un sabotage de la principale centrale du pays. Le gouvernement Maduro qui a ratifié l'ordre d'expulsion de l'ambassadeur d'Allemagne au Venezuela, faisant ainsi fi de l'appel de l'Union européenne à reconsidérer sa position. En Algérie, nouveaux appels à manifester ce vendredi contre la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat. Hier, le clan présidentiel a mis en garde contre une possible infiltration de la contestation susceptible de provoquer le chaos. Ce 8 mars, comme chaque année, c'est la journée internationale des droits des femmes. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une femme yéménite, Aïcha Tawab. Elle préside une ONG, elle vit dans le nord-ouest du Yémen, région contrôlée par la rébellion et donc bombardée par la coalition commandée par l'Arabie Saoudite.
C'est la journée internationale de la femme et c'est vrai que les femmes subissent la guerre au Yémen. Mais je voudrais dire que j'éprouve un sentiment de fierté en voyant le rôle que les femmes yéménites jouent en cette période de guerre. Elles sont fortes. Elles ont repris les responsabilités des pères, des maris ou des frères qui ne sont plus là. Elles sont en première ligne pour trouver de quoi nourrir leur famille, pour trouver de l'eau, pour assurer la sécurité de la famille. Il y a eu un changement que l'on pourrait presque qualifier de positif, un changement concernant le rôle des femmes dans la société. Mais c'est vrai aussi que les violences faites aux femmes ont augmenté depuis le début de la guerre, et ce malgré le rôle qu'elles jouent au quotidien en prenant en charge leur famille. On a vu beaucoup de cas de mariage précoce, des fillettes de 10 ou 13 ans, surtout parmi les populations déplacées, des mariages conclus en échange de nourriture ou d'un logement.
Et oui, Karine, au micro, madame, monsieur, que vous entendez en ce moment, elle sera des nôtres dans quelques minutes, vers 12h30. Elle sera, bien sûr, notre invitée, mais aussi, elle donnera un concert inédit à l'Alliance française de Toronto le samedi 23 mars prochain à ne pas rater.
Bonsoir, Linda.
Bonsoir, Mohamed.
De bonne humeur.
Mais comme toujours, surtout aujourd'hui, parce qu'en fait, dans quelques heures, ce sera la journée internationale des femmes. Et cette année, le 8 mars, est placé sous le signe du clitoris. Vous l'avez peut-être remarqué, Mohamed, depuis quelques jours, le clitoris fleurit sur les réseaux sociaux, surtout, mais aussi dans les rues, Genève, Bruxelles, Madrid, Rome, Paris, notamment. Alors, l'une des émanations concrètes du phénomène, vous le voyez, vous la voyez, c'est cette campagne d'art de rue, de street art, lancée par le Gang du Clito. Le Gang du Clito, c'est un compte Instagram qu'a créé Julia Pietri, une militante féministe française. Elle est partie du constat suivant, l'orgasme vaginal est un mythe. Ah. Ouais, je sais, moi aussi, j'ai été profondément secouée. Quand je l'ai appris, j'ai vu défiler ma vie d'un coup. Thierry, Romain, Bruno et tous ces feux d'artifice simulés dans le but de faire mousser leur virilité. J'ai l'air de quoi maintenant? L'orgasme vaginal est un mythe. Non mais j'ai l'air d'une menteuse. Ils n'auraient pas pu nous prévenir un peu plus tôt.
Une simulatrice.
La gang du clito prône donc la révolution du clitoris et la fin de l'analphabétisme sexuel. La campagne d'affichage qui est en anglais pour pouvoir parler au plus grand nombre, m'a dit Julia. Cette campagne promet que demain, le 8 mars, des clitoris vont éclore partout dans les rues, notamment en France. Ce n'est pas une légende que vous voyez, le clitoris dans toute sa splendeur. Ce n'est pas un émoji, c'est la campagne qu'on va voir. Ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un bretzel. C'est un clitoris, le symbole universel de la féminité, autant mutilé qu'oublié. Est-ce que vous connaissez ce tableau, Mohamed? C'est la Vénus d'Urbain, de Titien. Le peintre vénitien a peint ce tableau pendant la Renaissance, une époque durant laquelle il n'y avait pas de honte à parler de la jouissance féminine. On pensait à ce moment-là que le clitoris était utile pour faire des enfants. Mais le jour où on a découvert que ce n'était pas vrai, qu'il n'y avait pas de lien entre l'orgasme féminin et la reproduction, et bien le petit bouton d'or est tombé dans l'oubli. Il aura fallu plusieurs siècles avant qu'il refasse surface. Au Canada, à l'approche du 8 mars, ils ont lancé cette semaine un jeu interactif. Ça s'appelle Clit-moi. C'est sur un téléphone mobile exclusivement. Vous allez comprendre pourquoi. On clique sur l'icône et on nous présente un clitoris animé. On peut le grossir, le rapetisser, le modifier, modifier ses yeux, son chapeau, un peu comme sur Snapchat, vous voyez. Et puis, il y a 5 épreuves au cours desquelles on va apprendre à réaliser des mouvements avec son doigt sur l'écran. Le but, c'est de donner du plaisir à son clitoris. Il va nous le faire savoir, vous inquiétez pas.
Il réagit.
Voilà, il va il réagit. Vous allez voir si vous y arrivez à le faire réagir. Il faut vraiment s'exercer avec son doigt sur l'écran du téléphone mobile. Et une fois les 5 épreuves accomplies, eh bien, on est censé avoir acquis suffisamment de doigté pour le faire grimper au ciel. Vous allez voir, Mohamed, je vous le conseille, c'est à la fois drôle et instructif. clitmoi.onf.ca. Ça a été conçu par des étudiants en journalisme à l'Université du Québec à Montréal en collaboration avec l'Office national du film du Canada. Alors pour terminer, je citerai une statistique. Ah. Un quart des filles ne savent pas qu'elles ont un clitoris. 100% des hommes, eux, connaissent évidemment l'existence de leur pénis. Alors, on va essayer d'en finir avec ce fossé orgasmique. Ne boudons plus notre plaisir. Je vous souhaite un excellent 8 mars.
Bon ben. Et oui, pour en finir avec le fossé orgasmique, c'était bien sûr la chronique de Linda Giguère qui nous parle du clitoris dans sa chronique « L'humeur de Linda Giguère ».
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Terre d'Alliance.
Sur France, France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Ben pourquoi pas? Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Et oui, nous avons reçu beaucoup de réactions face à la disparité au niveau salarial entre hommes et femmes. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler avec notre invité Faiza Abdelawi. Et oui, une assemblée remarquable vous attend, madame, monsieur, ah ben, mesdames et les jeunes filles, Forum de femmes 2019. On vous rappelle, c'est un forum qui est organisé par l'Assemblée législative de l'Ontario et la date limite de demande a été repoussée jusqu'au 10 mars, donc demain. Et vous vous intéressez à l'actualité, aux affaires civiques? Êtes-vous impliqué dans votre communauté? Avez-vous une aspiration de devenir député ou aimeriez-vous apprendre plus de l'expérience d'une représentante en politique? C'est peut-être ce que notre prochain invité aimerait bien faire. Le Forum pour les femmes à l'Assemblée législative de l'Ontario rassemblera 124 jeunes femmes de tous les coins de l'Ontario pour un programme de journée complète à Toronto pour encourager la citoyenneté active et promouvoir l'engagement public par l'éducation et la responsabilisation. Et oui, une Ontarienne âgée de 20 à 35 ans sera sélectionnée dans chaque circonscription provinciale pour représenter leur communauté. J'aimerais tellement savoir combien de représentantes francophones allez-vous sélectionner, chers amis, femmes, députés, ministres du gouvernement de l'Ontario? Allez, vous avez la réponse. Répondez immédiatement. Les candidates sélectionnées auront l'occasion d'observer l'Assemblée législative à l'œuvre, de rencontrer des éminentes ontariennes et les principaux intervenants parlementaires. Les participantes obtiendront également une perspective unique dans les coulisses du Parlement de l'Ontario. Je vous rappelle que la date du programme est prévu pour le 15 avril 2019. Je vous invite à vous joindre en grand nombre. Les demandes seront acceptées jusqu'au 10 mars, donc demain. Allez vite sur le site de l'Assemblée législative de l'Ontario, www.ola.org. Et vous pouvez choisir en français ou en anglais pour apprendre justement plus de détails sur ce forum de femmes 2019. Comme nous célébrons la journée des femmes en 2019, le magazine Blog Tio révèle que l'écart salarial entre hommes et femmes se creuse au sommet de la hiérarchie à Toronto. Et on nous rappelle aussi que 47% de personnes vivant à Toronto sont issues de l'immigration. Qu'en est-il de la situation des femmes immigrantes francophones, des femmes entrepreneurs ou qui désirent se lancer en affaires? Notre prochaine invitée est-elle militante, entrepreneur ou activiste? Eh oui, elle est la présidente du mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, Madame Faiza Abdelawi. Et oui, madame, monsieur, celle qui semble être parmi les rares en tant que francophone à être dans les bons draps avec la ministre des Affaires francophones de l'Ontario et peut-être même du premier ministre du Canada, monsieur Trudeau. Oui. Et oui, elle est là. Parmi toutes celles, mon Dieu, il y a beaucoup de monde. Hein. Bonjour. Bon mois, hein, de la francophonie. Où est-elle? Où est-ce qu'elle est passée? Est-ce que vous la voyez, là? Ah. Justement. Madame Faiza Abdelawi.
Bonjour.
Bonjour, mon Dieu, il y a du monde hein, chez vous.
Oh, ma foi, et pourtant, non, vraiment pas.
Mais
un dimanche plutôt calme.
Oui, ah ben, ici, dans les enceintes de l'Université de Toronto, vous savez, chaque dimanche, vu que c'est un immeuble historique, il y a des gens qui viennent à la queue-leu-leu, comme ça, pour visiter les studios, Hot House, mais aussi tout l'immeuble. Cet immeuble qu'on risque de perdre d'ailleurs, parce que comme vous avez pu apprendre, il se pourrait que c'est le dernier des mois de la francophonie et peut-être notre dernière présence à l'antenne cette année, parce qu'on risque d'être effacé de la carte à cause de nouvelles politiques du gouvernement de Doug Ford.
J'espère bien que non, et j'espère que ce sera aussi malheureusement encore une opportunité de mobilisation.
Oui.
Pour maintenir l'émission et maintenir votre travail, au contraire.
Ben, on compte vraiment sur la mobilisation de la communauté en général. Et on a hâte de voir la réaction. Alors, comment s'est passée votre journée internationale des femmes 2019?
Oh my! D'une année sur l'autre, c'est vraiment à chaque fois une journée où je pense toutes les femmes, on arrive un peu épuisées. Par notre engagement, par notre travail quotidien et de se retrouver justement comme j'ai pu le faire à l'annonce de la ministre Mariam Monsef le matin qui annonçait des financements pour les femmes, pour soutenir les mouvements de femmes. Puis je regardais autour de moi et c'est vrai que c'est ce qu'elle disait aussi, c'est le jour je pense pour les femmes de se rappeler qu'elles sont vraiment pas seules à se battre et à travailler pour l'amélioration de nos situations. Donc c'était une belle matinée. C'était aussi pour le midi une autre opportunité pour moi d'aller ouvrir des portes, j'allais dire, pour les femmes de Bon Appétit. C'est une coopérative que je lance pour le compte d'Oasis Centre des Femmes, qui est un organisme avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler depuis de nombreuses années et qui lance maintenant donc cette initiative pour soutenir les femmes immigrantes et réfugiées. Qui vont pouvoir se lancer comme traiteurs. Et il y avait justement ces premières femmes traiteurs avec moi pour assister au lancement d'un concours du Consulat de France pour les femmes traiteurs. Donc c'était encore un beau moment d'émotion. Et puis c'est vrai, dans l'après-midi, j'ai eu la chance d'être invitée par How She Hustles d'Emily Miles, qui est une anglophone qui travaille beaucoup pour le renforcement des réseaux, du leadership des femmes entrepreneurs, notamment de la diversité. Et elle avait eu la possibilité d'organiser une table ronde avec effectivement le premier ministre, vous parliez de son père, mais là c'était le fils, Justin Trudeau, avec également la présence de la ministre de la Condition féminine. Et on a eu cette petite table ronde pour nous permettre de partager un peu où est-ce qu'on en était, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et ça a été vraiment aussi un moment très fort pour cette journée, absolument.
Alors, comme j'ai dit dans mon intro, pendant que beaucoup de francophones sont sur le qui-vive avec les services en français, il y a aussi, je regardais un article dans le journal de Montréal ce matin en disant qu'ils n'ont jamais vu ça. C'est un moment historique qu'un gouvernement est en cours, c'est-à-dire emmené en cours constamment par des groupes sociaux, par exemple, communautaires, ou des gens qui protestent contre les politiques du gouvernement en Ontario. Vous êtes, par contre, une des rares personnes qui trouve d'une façon ou d'une autre à passer à travers, et vous avez siégé il y a quelque temps de cela, vous avez eu une rencontre assez fructueuse avec la ministre des Affaires francophones, Madame Mulroney, et parlez-nous un petit peu des retombées depuis cette rencontre.
Alors vraiment, je ne suis pas une des seules, parce que justement là, typiquement, cette rencontre avec la ministre Mulroney, c'était un travail d'équipe, et notamment un travail d'une femme que je salue là, de Sabine Soumaret, qui est une consultante, qui est une amie, mais qui est aussi une consultante pour le MOFIF actuellement, et qui justement nous aide à naviguer un petit peu tout ce monde politique, ce monde gouvernemental, auquel moi, en tant que femme immigrante, plutôt habituée à un système francophone, justement, j'ai pas du tout l'habitude. Comment est-ce que on rentre dans ces bureaux-là, comment est-ce qu'on parle. C'est aussi pourquoi est-ce que j'ai pu m'asseoir avec Caroline Mulroney, avec une autre membre du CA, Geneva, que vous connaissez d'ailleurs très bien à votre radio. C'est parce qu'on présentait un livre blanc, le livre blanc sur l'engagement civique des femmes immigrantes francophones. On cherche à encourager, surtout justement dans les prochains mois avec les élections fédérales, l'engagement civique des femmes. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Elle a été à l'écoute. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant avec ce type de rencontre, c'est que ça donne de la visibilité et que ça nous permet derrière de justement faire connaître nos activités, faire connaître notre travail, mettre en avant les autres femmes qui travaillent en tant que membres ou bénévoles du MOFIF et faire avancer leurs dossiers et leurs enjeux.
Donc c'est
vraiment un travail d'équipe. On voit beaucoup, mais c'est juste parce que je suis la présidente. Mais on est beaucoup, on est vraiment beaucoup.
C'est pas une critique, hein. C'est au contraire, c'est pour expliquer aux gens justement dans l'engrenage de tout ce système bureaucratique comment les enjeux se font et comment faire connaître les enjeux des femmes francophones. Il faut bien dire aux gens qui nous écoutent à l'étranger et aussi ici, c'est très rare qu'on voit les visages des femmes immigrantes francophones sur la place publique. Et peut-être le MOFIF, depuis que vous avez pris en charge la présidence du MOFIF, d'ailleurs vous allez partir dans quelques semaines, on se demande qu'est-ce qui va se passer, est-ce que cela va être tremblement de terre au MOFIF, mais on ne sait pas. Alors le MOFIF, madame, monsieur, c'est a pour mission de travailler à la mise en place des conditions favorables pour améliorer la situation des filles et des femmes. Et aussi, je dirais, surtout des femmes et des filles immigrantes qui, bien souvent, pour des raisons linguistiques, des raisons du langage et de apprivoiser le système anglophone, il faut bien le dire, toute la machine bureaucratique, ça se passe souvent en anglais. Il faut qu'il y ait des porte-parole, des porte-étendards assez fortes pour promouvoir les besoins et les réalités de ces femmes immigrantes qui sont souvent dans des situations très vulnérables.
Absolument, oui. Dans des situations très vulnérables, vous avez raison. Et la question linguistique, j'ai eu l'occasion justement de l'aborder pendant cette table ronde avec les autres femmes qui étaient autour de la table. C'était toutes des anglophones, j'étais la seule francophone. Et vraiment, j'ai pu voir qu'en partageant nos enjeux, on s'est beaucoup écouté les unes les autres, on s'est rencontrés avant, on a continué notre discussion après. Et c'est là où les ponts se font et j'espère qu'il va y avoir des suites. Parce qu'elles sont intéressées de connaître la situation des femmes de la diversité francophone, des femmes noires, puisque beaucoup d'entre elles qui sont autour de la table travaillent plus spécifiquement autour des enjeux qui touchent les femmes noires anglophones. Et elles ont bien conscience que les femmes noires francophones, des Caraïbes, de l'Afrique, ont des problématiques particulières et qu'il y a un soutien, il y a un réseau qui doit pouvoir se créer. Elles étaient toutes à s'excuser de ne pas parler français, mais je leur disais, n'attendez pas de parler français pour venir vers nous, et au contraire, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour pouvoir faciliter ces rencontres-là. Donc là aussi, je vais faire attention à ce qu'il y ait des liens qui se passent entre les femmes anglophones très impliquées et les membres de la diversité francophone, parce que des femmes, quand elles s'entraident, ça va loin, et il ne faudrait pas que la langue reste cette barrière qu'on a vu ces dernières années.
Je sais que ça a pris plus de 20 ans pour que les femmes de la région de Toronto aient leur propre maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. Et je sais, j'ai suivi cette bataille menée de front par des femmes qui ont marqué l'histoire parce qu'on sait qu'à Sudbury, ou à... c'est bien souvent le nombre et la visibilité qui en font état avec les rapports dans les gouvernements pour prendre des décisions précises affectant certaines communautés. Et là, il y avait vraiment beaucoup d'études, mais aussi beaucoup de combats des femmes pour demander qu'il y ait une maison. Alors finalement, cette maison va célébrer bientôt un grand anniversaire.
Absolument, tout à fait. Et vous disiez tout à l'heure, vous avez, depuis que vous êtes présidente, mais moi je continue, je suis dans la continuité des précédents, c'est justement Jeanne-Françoise Mouet, qui est la directrice générale de la maison d'hébergement, qui va fêter le mois prochain son gala. Je serai présente, bien sûr, et j'espère que tout le monde achètera un ticket pour ce gala. Il fera des dons, surtout, ne restez pas juste sur l'achat du ticket, il va juste couvrir les frais de cette soirée, aller plus loin, faites des dons, c'est ça qui fait fonctionner aussi nos organismes. Bah, Jeanne-Françoise Mouet, elle est parmi les créatrices, les initiatrices du MOFIF. Donc j'espère qu'elle est fière et contente de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui va continuer à se passer dans les prochains mois. La relève est là, j'ai très très conscience, pas de tremblement de terre, personne n'est irremplaçable. Au contraire, les femmes francophones sont pleines de qualités, on est suffisamment nombreuses pour mener la barque, pour continuer ça.
Alors j'espère que les autres femmes qui sont un peu timides, qui sont à l'écoute, souvent elles m'appellent, elles me disent que « Ah, on a aimé cet invité, on a aimé les propos de telle ou telle personne, mais j'ai peur de me montrer, j'ai peur. » Alors il faut pas avoir peur, et je sais que Faiza est très avenante et vraiment très c'est-à-dire vous êtes très compréhensible, parce que chaque femme apporte un bagage unique, un bagage culturel. Il y en a aussi des femmes qui arrivent ici comme entrepreneurs. Mais il y a un aspect qui revient depuis 10 ans, 15 ans, que j'entends les femmes immigrantes qui nous appellent à la radio. Bien souvent, ils n'arrivent pas à trouver un travail avec la même rémunération des hommes. Et cet écart dans les salaires entre les sexes en Ontario est en moyenne de 30% au détriment des femmes. Et c'est assez énorme. Et surtout pour les femmes francophones immigrantes, avez-vous l'impression qu'il faudrait peut-être se pencher là-dessus? Parce que je sais, au niveau anglophone, il y a beaucoup d'études, de rapports et aussi beaucoup de groupes qui font du lobby auprès du gouvernement. Mais au niveau francophone, souvent les femmes sont obligées de faire des travaux de subalterne, il faut bien le dire. Et ce sont des femmes hautement qualifiées, mais souvent pour une question linguistique ou un accent ou de leur couleur de peau, n'arrivent pas à trouver un travail équivalent à des hommes ou encore à d'autres femmes de race blanche en Ontario français, il faut bien le dire.
Oui, absolument. Vraiment, les femmes de l'immigration, effectivement majoritairement issues de communautés racialisées, sont parmi celles qui souffrent le plus de ces écarts de salaire, de ces manques de reconnaissance de leur expérience. Je dirais que c'est pas qu'on a été inactif là-dessus. Il y a beaucoup de femmes, je viens d'ailleurs de raccrocher d'une conversation avec Rose Cathy Andy, qui travaille sur de nombreux projets, qui est aussi directrice de Bilingual Link, par exemple. Donc, entre le travail de Rossiati, le travail de l'Oasis Centre des Femmes, le travail d'autres organismes, finalement, il y a quand même de lobbying qui se fait. On manque sans doute de visibilité, mais ça ne veut pas dire qu'on a laissé le dossier de côté. Il faut aller plus loin. C'est d'ailleurs un des appels que je voudrais lancer. Les femmes immigrantes actuellement qui sont en train de lancer leur entreprise, qui sont déjà en entreprise et qui souhaitent se développer, de ne pas hésiter à m'envoyer un courriel, puisque justement j'aimerais faire un suivi efficace par rapport à la réunion que j'ai eu la chance d'avoir, la participation à cette réunion que j'ai pu faire ce vendredi, donc avec Monsieur le Premier ministre et la ministre de la Condition féminine. Et j'adorerais leur envoyer un courriel de plusieurs pages avec le nom de ces femmes entrepreneurs, leur descriptif. Et puis, qu'est-ce qu'il leur faudrait justement pour passer à la prochaine étape, pour se développer économiquement, puisqu'on le sait, les portes ne s'ouvriront justement que comme ça, avec la réussite de quelques-unes. Et puis, derrière, encore une fois, on va accompagner les autres. Donc, on s'accroche.
Alors, on écoute un instant. Je ne sais pas si vous avez entendu les propos des femmes du monde avec le magazine 7 milliards de voisins voisines avec Emmanuelle Bastide. Mais pour l'instant, j'aimerais avoir vos réactions sur les propos suivants.
On a l'impression, dès qu'on parle des droits des femmes, effectivement, que finalement, ça fait consensus, que le monde entier, les gouvernements du monde entier,
ça
effectivement, sont
évident.
Prêts oui, à défendre les droits des femmes. Mais quand on regarde de plus près, effectivement, il faut être extrêmement vigilant au risque de, justement, cette défense et cette protection des droits des femmes ne se résume pas à un simple exercice de relations publiques, parce que ça devient facile pour les gouvernements, par exemple, de s'afficher comme des défenseurs des droits des femmes. Et quand on regarde après ce qui est fait dans le pays, au niveau des lois nationales, on en est très très loin. Cette année, on va quand même fêter les 40 ans de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. C'est une convention qui a été largement adoptée par énormément de gouvernements. Sauf que si on regarde de plus près, il y a de nombreux gouvernements qui ont adopté, en tout cas qui ont rejeté certaines dispositions de ce texte. C'est-à-dire qu'il faut qu'en apparence, on s'affiche comme prônant les droits des femmes, c'est quelque chose d'assez classique. Et derrière, dès qu'il s'agit de les mettre en œuvre, de les appliquer concrètement, effectivement, on va le faire à la carte.
Alors souvent, c'est ça qui s'est passé. Pendant les campagnes électorales, les politiciens font des grandes promesses, des grandes déclarations.
Totalement.
Mais une fois rendus au pouvoir, et on l'a vu ça avec les francophones ici en Ontario. Oui. Et comment, justement... être sûr que Monsieur Trudeau, Justin Trudeau et aussi toute la clientèle de son entourage, y compris en Ontario, mettent en pratique vos demandes, vos exigences.
Mais en se rappelant que finalement ces élus sont des élus qui doivent nous représenter et répondre à nos demandes et les tenir responsables, en fait, accountable. Il y a ce mot en anglais qui est effectivement très très fort.
La redevabilité.
Exactement, cette fameuse redevabilité face aux promesses et face aux besoins. Il y a eu des annonces, alors c'est vrai, il y a eu des résultats aussi. Hein. Je voudrais juste rappeler, alors tant qu'on est de réponse encore pour le MOFIS, que vendredi, il y a eu une annonce assez, c'est vrai, historique, puisque une des difficultés pour les organismes de femmes, c'est qu'on est toujours à la merci de financement de projets. Mmh. Et que là, la nouveauté, c'est que c'est un financement sans attache, en fait, sur les 5 prochaines années, donc au-delà d'un cycle électoral. Et je mets beaucoup d'espoir, justement, sur ce financement, pour qu'on ne soit pas toujours à être dans le vent du marketing et des grandes annonces, mais qu'on puisse vraiment travailler sur le terrain de façon plus forte. Moi, ce que j'aime bien, en fait, finalement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je me dis qu'on peut l'utiliser à notre avantage, justement. Parce qu'une fois que les choses sont dites publiquement, quand on revient en arrière, on peut pousser. On ne doit pas reculer. Quand les promesses ne sont pas tenues, c'est au contraire le moment de les rappeler aux personnes qui ont fait ces promesses, qu'on les a vues, qu'on les a entendues et qu'on attend des résultats. Donc au lieu de reculer en se disant « Ah, mais c'est le jeu politique et ils font toujours ça », c'est au contraire de se dire « Non, il est temps que ça change parce que les résultats et les conséquences justement de ces promesses non tenues sont dramatiques. Et si on continue de mettre la pression, eh bien ma foi, à un moment, les politiques se rendront compte, j'espère. »
Eh oui, nous venons de
Vous savez bien que je suis une optimiste de nature.
Bien sûr, on vous suit de près, on suit aussi toute votre parole. Hein. Et selon la coalition, alors je dois terminer, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Selon la coalition, vous savez, il y a une coalition pour l'équité salariale en Ontario. Selon cette coalition, les chiffres sont aussi saisissants. Hein. Ne donnent pas la pleine mesure de l'ampleur de l'injustice dont les femmes sont victimes. L'écart salarial, selon cette coalition, entre hommes et femmes, représente environ 57% chez les autochtones.
Oui.
Il est de 37% à 39% chez les femmes non blanches et les immigrantes. Et les nouvelles arrivantes gagnent en moyenne 57% du salaire d'un homme blanc. Et les femmes ayant une éducation, là si j'arrive à trouver ce que la... Il y a une auditrice qui m'a envoyé. Voilà. Selon les déficiences, quant à elles, doivent se contenter d'un écart de rémunération de 46%. Donc,
une situation honteuse.
Alors, la coalition demande au gouvernement de l'Ontario de prendre des mesures concrètes pour combler cet écart, l'écart salarial entre les hommes et les femmes. J'espère que le message est passé. L'inégalité salariale homme-femme dans la mire de Doug Ford. D'ailleurs, il y a des... on va recueillir des commentaires des femmes en vue d'adopter une nouvelle loi visant à éliminer cet écart. Je pense que le gouvernement a déjà commencé avec les consultations au niveau de la province.
Tout à fait. Mais si je pouvais avoir une minute de plus,
L'égalité des salaires, c'est juste un des points du problème. Il faut aussi parler de logements abordables pour les femmes. Il faut aussi parler d'une meilleure équité au niveau de la préparation de la retraite, parce qu'on a aussi des problématiques c'est même pas pour les prochaines générations, mais on a un appauvrissement terrible des femmes au moment de leur retraite. Et justement, toutes ces femmes immigrantes que nous sommes, qui arrivons, qui n'auront pas eu le temps de nous préparer correctement, nous allons aussi vers des situations d'appauvrissement et de vulnérabilité terrible. Donc l'égalité des salaires, oui, mais il faut voir au sein d'un système.
Oui. Merci infiniment et je vous souhaite bon succès, bon vent. Gardez contact. Je rappelle, madame, monsieur, vous pouvez aller sur le site du MOFIF, mofif.ca, ou encore contact@mofif.ca, dialoguer avec ou émettre vos commentaires, vos réactions à madame Faiza Abdelawi, la présidente sortante du MOFIF en Ontario. Toute l'équipe et tous les auditeurs, les invités vous souhaitent bon succès et bon vent, bonne journée et merci. Bon mois de la francophonie. J'espère vous avoir très prochainement à l'antenne et merci de votre appui et de votre soutien.
Je vous en prie, merci à vous, bravo.
Et oui, ne t'arrête pas de Julie Kim, une artiste franco-ontarienne de la région de Toronto. Participez à notre question du jour. Qu'est-ce que la bibliothérapie? Personne ne vous appelait pour donner la réponse? La bibliothérapie, qu'est-ce que c'est? Allez, j'aimerais ça vous envoyer au concert de Karine au micro la semaine prochaine, samedi prochain, à l'Alliance française de Toronto, samedi le 23 mars. Qu'est-ce que la bibliothérapie? 86-946-7000. Un petit détour rapide avec la journée de la femme, mais qu'on n'a pas mentionné, la journée du 7 mars au Sénégal avec une anime.
CIUT 89.5 Toronto. Écoutez est la plus grande des qualités. Écoutez les enfants, les parents, les professeurs et les coéquipiers, les discours fous des pionniers. Écoutez votre instinct et croyez en vos idées. Écoutez votre cœur et les visions encore inexprimées. Écoutez le présent et les échos du futur. Ne pas seulement entendre, écoutez. Parce que c'est seulement quand nous écoutons que nous pouvons comprendre, que nous pouvons trouver des solutions intelligentes, que nous pouvons progresser. C'est seulement en écoutant ce qui compte que nous pouvons créer des solutions qui comptent elles aussi. C'est de là que tout provient. Ce n'est pas seulement en nous, c'est notre nous.
message à formuler le 8 mars, rappelez juste dans le contexte que nous sommes au Sénégal, c'est vrai que nous célébrons le 8 mars, et qui nous est venu d'ailleurs, de l'étranger, et évidemment que nous avions des droits à défendre, que nous défendons, et il fallait se battre pour que les femmes puissent accéder à certains droits. Elles y ont accédé, il y a d'autres droits également. Mais le message que je voudrais lancer en ce 8 mars, c'est de ne pas oublier qu'il y a également la journée du 7 mars, qui rappelle Talata Ndeyer, qui est une histoire de notre pays, qui nous appartient à nous, qui est notre chose à nous, que nous devons mettre en avant. J'appelle toutes les femmes sénégalaises à revoir un peu cette histoire des femmes de Ndeyer et à les célébrer, parce qu'elles méritent d'être célébrées. Ceci.
Sur quelle planète suis-je tombée ?
La planète Terre.
Bonjour. RFI.
RFI, on en fait tout un monde. Je me...
Oui, vous entendez en ce moment la belle voix mielleuse, ensorcelante de notre prochaine invitée. Elle est artiste originaire du Bénin. Sa musique aussi entre la puissance du gospel, la douceur du jazz, l'ambiance chaleureuse de l'Afrique et l'authenticité du hip-hop. Pour certains, on la considère comme une artiste sans frontières. Du Bénin en passant par la France, elle est aujourd'hui établie à Montréal. Elle a un album et des clips à son actif, mais quel est son vrai nom? Grâce à notre partenaire Batuki Music Society et Nadine McNulty de CUTFM, elle sera en concert le samedi 23 mars à 21h. Mesdames et messieurs, accueillons la talentueuse Karine au micro. Il y a toujours beaucoup de monde hein, dans l'enceinte du studio à Hot House. Sloan Ballan, pouvez-vous me trouver, s'il vous plaît, m'aider à retrouver notre invitée, Karine au micro. Elle est là, bonjour, bonjour, oui. Karine au micro.
Bonjour.
Mon Dieu, il y a du monde hein, dans cet immeuble incroyable. Comment allez-vous?
Ben, je vais très bien, et vous?
Ah oui, ça va. Alors, Karine et Micro, est-ce que c'est votre vrai nom? Parce que moi, je suis au micro, mais je ne connais pas une autre personne avec le nom de famille au micro. Expliquez-moi.
Non, Karine au micro, c'est mon nom de scène en tant qu'artiste, en fait. Mon vrai nom, c'est Karine Agboton, qui est un nom donc originaire de Porto Novo au Bénin. Mmh.
Et donc, vous avez débuté dans votre pays d'origine, au Bénin, comment s'est passé un peu votre parcours pour vous lancer sur la scène artistique?
J'ai commencé en fait à l'école. Je dansais en fait, je faisais des chorégraphies pendant les fêtes de l'école. Et puis la dernière année, donc juste avant d'avoir le baccalauréat, donc à la fin du secondaire, j'ai eu une personne qui m'a approchée en me demandant de chanter.
Donc, ah oui, comme ça. Donc, moi, je peux me retrouver dans la rue de la ville de Toronto et puis une personne, ah, tiens, est-ce que ça t'intéresse de chanter?
Non, ouais. En fait, c'était plus dans, on va dire, la communauté scolaire.
Ah.
Donc, c'était quelqu'un qui savait que je dansais pour les fêtes de l'école et qui était là pendant donc ces fêtes de l'école.
Donc, il y avait quelqu'un qui vous surveillait, qui vous regardait, qui vous espionnait peut-être. Et là, cette personne a découvert un talent.
Découvert un talent, je ne sais pas, parce que je pense que la personne s'est juste essayée. Je ne sais pas exactement.
Mais qui est cette personne, finalement?
C'était en fait un des garçons qui était dans le comité organisationnel de la fête en question de l'école.
Ouais.
Et donc, ils étaient à la recherche de personnes pour pouvoir faire le spectacle final.
Mm-hmm.
Qui avait eu lieu au Centre culturel français à l'époque.
Oui.
Donc finalement, je me suis dit, bon, s'il veut que je le fasse, je vais le faire, mais je ne m'attendais pas du tout à me retrouver à faire de la musique sur la scène quelques années après.
Et justement, parlez-nous un petit peu, parce que nous sommes dans le mois de la francophonie, parlez-nous un petit peu de la vitalité de la langue française au Bénin.
Ben, la plupart des gens parlent français. On a évidemment les langues, on va dire les langues locales, les langues nationales,
oui,
qui sont très présentes. Mais par exemple, si vous allez dans une administration, les gens parlent français.
Mmh.
Tout le monde se débrouille pour parler un petit peu français, même si on conserve très jalousement nos langues nationales.
Oui. Alors, et puis vous avez atterri à Paris. Comment s'est fait votre trajectoire Bénin-Paris?
En fait, c'était plus parce que mes parents m'ont envoyé en France après le baccalauréat en question. Donc, j'ai commencé l'université en France. Et puis, j'avais décidé de continuer à faire un petit peu de musique, mais je ne le prenais pas très au sérieux. C'était plus parce que j'aimais bien ça, mais je ne savais pas que j'allais le prendre à cœur comme ça par la suite, en fait.
Donc, oui,
j'ai continué à le faire. J'ai fait beaucoup des chœurs et beaucoup des collaborations avec des groupes là-bas en France. J'étais à Lille, dans le nord de la France, donc je me suis un peu établie, on va dire, en tant que chanteuse en France, à Lille.
Alors, moi, quand je vous ai vu, j'ai suivi un petit peu votre parcours sur YouTube et d'autres réseaux sociaux. C'est sûr, je suis convaincu, vous êtes une grande danseuse, mais je pense que vous pourriez aussi être une comédienne, une actrice.
Une comédienne?
Hein?
Pourquoi?
Oui, parce qu'on pourrait trouver un rôle. Je connais des producteurs, je connais des gens qui écrivent des scénarios. Est-ce que vous avez pensé un jour vous lancer à la télévision, au cinéma?
Non, j'ai jamais pensé à faire ça parce que, vous savez, il y a les gens qui me connaissent bien disent toujours que, justement, je ne sais pas faire la comédie. Tout se lit sur mon visage et dans mon...
Non. Non, il ne faut pas vous estimer. Écoutez, on va faire entendre un morceau que les auditeurs, les auditrices, surtout à l'étranger, qui ont connu cette voix. Moi, j'ai grandi avec cette voix quand j'étais petit garçon en Zambie, en Botswana, à l'île Maurice. C'est une voix grave, étrange, qui me manque étrangement. Et madame, monsieur, quand j'ai entendu Karine au micro interpréter cette chanson, ça m'a fait penser à Myriam Makeba. Écoutons.
«
j'adore. Est-ce que les gens vous ont passé ce commentaire que votre voix ressemble étrangement à Myriam Makeba?
Oui, j'ai déjà eu ce commentaire-là.
C'est tellement beau, mais vous avez une très belle voix. Et j'espère que les gens seront nombreux à aller vous applaudir à l'Alliance française samedi prochain. Vous avez hâte de venir à Toronto? C'est votre première visite?
Oui, ça va être ma première fois à Toronto, à l'Alliance française. Donc oui, j'ai hâte d'y être.
Oui, et j'espère que les gens apprécient cette conversation qu'on a avec vous et qu'ils seront là pour vous rencontrer. Parlez-nous un petit peu justement des concerts que vous avez donnés à Montréal, parce que vous avez eu, je pense, à collaborer avec Vibi, Dreddy, Umar Indai et tant d'autres encore que les gens connaissent moins ici à Toronto. Comment avez-vous fait pour entrer en contact avec ces grands de la scène montréalaise?
Ben en fait ce sont des collègues à moi qui lançaient leur projet à un moment donné et qui avaient besoin de gens pour faire des chœurs en fait. Donc je me suis retrouvée à faire des chœurs pour ces personnes-là. Et puis quand j'ai senti que c'était le moment, j'ai décidé de me lancer moi-même en tant que chanteuse lead en fait. Mais ce sont des personnes avec qui j'ai collaboré en tant que choriste.
Est-ce que vous avez des prix à votre actif? Est-ce que les médias francophones dans la région de Montréal, du Québec, vous reconnaissent un peu?
Je dirais que oui, je pense en tout cas. je sais que j'ai participé à un concours il y a 2 années de cela, trois même maintenant, c'était en 2015, 16, 17, 18, 19, donc ça fait presque 4 ans. Où j'ai gagné le prix du public en fait. Donc c'était la vitrine des musiques locales et métissées qui avait lieu ici à Montréal. Ils le font chaque année au mois d'octobre, je crois. Et donc j'avais gagné le prix du public, donc ça signifiait que le public avait voté pour moi comme quoi j'étais leur choix préféré de cette édition-là.
Oui. Et vous avez aussi une source d'inspiration, Angélique Kidjo, c'est un peu un modèle hein, pour vous.
Oui, parce que Angélique Kidjo, j'ai commencé à la suivre depuis ses débuts quand j'étais encore au Bénin, quand j'étais enfant au Bénin. Et je trouvais qu'elle était très innovatrice dans sa façon de se présenter, dans sa façon de faire de la musique. Elle arrivait à allier un petit peu le côté traditionnel et le côté moderne. Donc, étant jeune, oui, on est attaché à tout ce qui vient de chez nous, mais on aime bien que ce soit, on va dire, adapté à notre jeunesse. Donc,
c'est une très grande voix de l'Afrique, une très grande ambassadrice africaine pour les droits de la personne. Elle vient régulièrement à Toronto. Elle a un grand public ici à chaque fois qu'elle passe à Toronto. Et il faut rappeler aussi que vous avez fait un projet avec diversité avec la Maison d'Haïti à Montréal.
Oui.
C'était en 2017. Donc, vous arrivez à jumeler votre carrière avec peut-être les besoins des communautés pour les droits de la personne, mais aussi les communautés les plus vulnérables. Est-ce que vous avez des projets? On sait qu'il y a un clip que vous avez posté cette semaine, je pense, sur votre compte YouTube, que les gens peuvent aller découvrir. Mais est-ce que vous avez un projet d'un deuxième album ou encore un projet de tournée en Amérique du Nord ou en Europe?
Ben alors, le projet de clip, oui, il y en a un qui est en cours encore. Ben, je suis en train de travailler dessus. Et ça va se faire avec le même réalisateur qui a fait le premier clip dont vous avez parlé, qui est Manon Tepo, qui est sorti donc au début du mois de février. Donc, ça fait maintenant un mois qu'il est sorti. Le projet d'album, oui, effectivement, c'est aussi en cours. J'ai déjà presque fini d'écrire les chansons, donc là maintenant il faut travailler sur la musique qui va accompagner les textes. Et puis pour le projet de tournée en Amérique du Nord et en Europe, absolument que je veux faire des tournées là où on m'invitera finalement.
Alors je vous dis en primeur, et si jamais on est encore en vie à la radio CUTFM, on aimerait ça être parmi vos médias partenaire, et comme ça on pourra annoncer des scoops et préparer votre arrivée en Ontario ou encore en Amérique du Nord, parce qu'on est écouté sur Internet, comme vous le savez.
Oui, Ah, mais c'est très gentil comme proposition.
Alors, je rappelle, dame, madame, monsieur, il faut absolument tout laisser le samedi 23 mars, samedi prochain, dans le cadre du mois de la francophonie, dans le cadre de la semaine francophone. Allez voir en grand nombre cet artiste du Bénin qui est actuellement à Montréal et qui vous attend en grand nombre. C'est Carole au micro. Karine au micro, je m'excuse, Karine au micro, Karine Akbodon, et elle est chanteuse, une voix que vous allez apprécier, que j'ai... D'ailleurs, je suis déjà ensorcelé par votre voix, hein, vous voyez bien là, je suis déjà ensorcelé par votre voix. Et là, je vais demander à tous les auditeurs et tous les visiteurs qui sont ici en studio de vous applaudir, voilà. Le 23 mars, à l'Alliance Française de Toronto, rue Spadina, et on va vous laisser avec un enregistrement, c'était au Club Balafon à Montréal. Cher Karine au micro, bon séjour à Toronto et j'espère vous rencontrer personnellement, hein. C'est super, hein? Alors je vois que Stone Ballant, est-ce que vous aimeriez aller voir Karine au micro? Alors, nous avons quelqu'un qui m'a envoyé un message. Elle s'appelle Moui Girwa. Elle dit « Bonjour, la bibliothérapie, c'est un terme de la langue française qui désigne les vertus thérapeutiques de la lecture. » Eh oui, il faut lire des bons livres. Et non pas des mauvais livres pour avoir une bonne thérapie. Eh oui, la lecture peut être une thérapie, madame, monsieur. Mais moi, vous savez, c'est quoi ma thérapie, Sloane ? La plage. Ah oui, Saint-Martin, Port-au-Prince. Hein ? Ça me manque terriblement. Merci beaucoup, Miga. Alors peut-être vous gagnez une paire de billets. Dimanche prochain, nous serons en avance pour célébrer la Journée internationale de la francophonie avec une palette d'invités de marque. Et j'ai bien besoin de votre aide, mon cher Sloane Ballant. Nous irons à travers le monde, sur les 5 continents, avec plusieurs invités. Et on remercie professeur Aurélie Lacazane qui sera avec moi pour co-animer la première heure. Monsieur Marc-Albert Cormier, nous aurons Linda Giguère, nous aurons Obed Lamy d'Haïti, nous aurons professeur et analyste politique Stéphanie Chouinard de l'université, elle est partout, hein, elle est en Ontario, elle est à Kingston, mais aussi monsieur Carole Jelin, le président actuel de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Et cela vous intéresse, madame, monsieur, vous venez d'apprendre cette nouvelle, appelez Sloane immédiatement au 86 9 46 7000, à ne pas rater dimanche prochain. Merci à madame Faiza Abdelawi du MOFIF, merci à Karine au micro, cela m'a fait vraiment plaisir. Batuki Music Society, Nadine McTonty qui vient de nous envoyer un message, thank you Nadine. Et puis Emmanuel Bastide, animatrice du magazine, et ses invités, magazine 7 milliards de voisins. Sloane Ballant, un grand merci, je vous dois bien gros. Et DJ Devera, merci d'avoir été là. RFI TV 5 Monde, merci. Spécial, bonjour spécial à notre ami de toujours, poète, auteur et homme engagé, professeur émérite, qui recevra la médaille de l'Ordre du Canada cette semaine à Ottawa, professeur Eddy Bouraoui, qui nous écoute en ce moment et qui nous a appelé hier soir pour nous donner un coup de pouce, un coup de main. On a bien besoin de vous pour sauver la radio communautaire CUT-FM de l'Université de Toronto. Madame, monsieur, envoyez-nous un message à popourri@cut.fm. À votre tour, professeur, je vous envoie tout mon appui et aussi tous mes messages pour ce voyage à Ottawa avec votre famille. Vous serez désormais dans la cour des grands Canadiens. Et on vous félicite, on adore votre travail, vos œuvres. Vous êtes avec nous depuis le début de nos émissions, de notre aventure à la radio. Et là, vous assistez peut-être au démantèlement de la radio avec des politiques rétrogrades qu'on connaît en ce moment. Mesdames, messieurs, je pars, le cœur gros un peu, mais nous avons toujours de l'espoir, n'est-ce pas, Sloan? Il faut avoir de l'espoir si on veut aller loin et vivre demain, après-demain, le mois prochain, l'année prochaine et pour toujours. Allez, je vous salue. Bon mois de la francophonie. Allez, musique!
Musique, j'ai dit musique!
Écoutez la planète chanter.
Cette chanson, les feuilles mortes me rappellent à ton souvenir.
Écoutez la planète chanter.
IUT 89.5.